Mémoire vive,
présenté par Antoine Mercier
et préparé par Rachel Rimer, une émission de RCJ avec la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Bonjour, bon dimanche. Pendant plus de 5 siècles et jusqu'au génocide, il y a toujours eu en Europe un juif pour chanter, écrire, étudier, raconter ses peines et raconter ses joies dans une langue qui était née entre Rhin et Moselle dans les communautés juives de Rhénanie. C'est bien sûr le yiddish dont on parle aujourd'hui. En 1939, on estimait à 10 millions environ le nombre de locuteurs et de lecteurs de cette langue dans les trois principaux centres d'implantation du Yiddishland, Pologne, Russie, États-Unis. Donc 10 millions de locuteurs auxquels s'ajoutaient quelques centaines de milliers d'autres dans d'autres pays européens. L'immense majorité d'entre eux furent anéantis, on le sait, dans la Shoah et leur langue. Avec, il y avait pourtant eu des centaines de milliers d'œuvres, des milliers de quotidiens, des centaines de troupes de théâtre qui avaient été sémées comme ça dans le monde entier avec, à partir du 19e siècle, une ardeur, une impétuosité, une intensité encore amplifiée. L'arrêt fut donc brutal. En moins de 10 ans, le yiddish devint quasiment une langue morte, comme exilée du monde. Et à l'occasion du Salon du Livre, nous avons choisi d'évoquer aujourd'hui un ouvrage qui, à travers un choix d'auteurs représentatifs de la littérature yiddish, vise à faire partager cette richesse, cette fécondité d'un monde à jamais disparu. Un livre donc qui exhume ces trésors littéraires de cette langue assassinée qui faisait exister la satire aussi bien que le mélodrame, le rire comme le mystère. Son titre « Royaume juif » publié dans la collection Bouquin des éditions Robert Laffont. Et pour en parler, nous sommes avec Rachel Hertel, sous la direction de laquelle cette édition a donc été établie. Rachel Hertel, spécialiste bien connue des littératures et cultures juives, traductrice d'une trentaine d'œuvres, romans et poésies, auteur notamment de « Dans la langue de personne, poésie yiddish de l'anéantissement au seuil » et de « Brasier de mots » édité chez Liana Levy. Bonjour donc Rachel Hertel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On va, en rendant cette parole à ces écrivains de langue yiddish, vous affirmez vouloir inscrire dans le patrimoine français et universel l'univers imaginaire du Yiddishland qui a puisé aux sources évidemment de la société juive, mais aussi au-delà, à celle de toutes les sociétés européennes. Le yiddish, donc, pour vous, ce n'est pas la langue du ghetto, c'est une langue qui a vocation à s'insérer dans l'universel, et pourtant, ça reste quand même un paradoxe de dire cela.
Ça reste un paradoxe parce qu'on a enfermé le yiddish effectivement dans une sorte de ghetto. On en a fait une sorte de folklore. On se raconte les blagues yiddish. On voit le Yiddishland comme une sorte de monde chagallien atemporel du 19e siècle. Or, le yiddish a été tout cela et a été bien plus que tout cela. Et on peut s'en rendre compte, d'une part, par la langue elle-même, parce que la langue, le yiddish, qui, comme vous l'avez dit, est né autour du 11e siècle entre en Rhénanie, est une langue qui est une langue de fusion, c'est-à-dire que tout au long des pérégrinations des Juifs à travers les différents pays, c'est-à-dire en commençant par le bassin méditerranéen et en remontant avec les armées romaines jusqu'en Rhénanie, eh bien, ils avaient leur langue propre, c'est-à-dire l'hébreu araméen, et ils ont, tout au long de leur chemin, accueilli tous les vocables qu'ils ont trouvés en route, et ils ont également adopté les syntaxes et les modes d'expression des cultures mitoyennes au milieu desquelles ils se trouvaient.
Pourquoi avoir eu besoin de créer cette langue finalement? Ça correspondait évidemment aussi sans doute à un besoin politico-économique.
Bien entendu, les Juifs se trouvant dans un pays de langue allemande et devant communiquer avec la société ambiante, devaient passer par l'allemand, gardaient leur langue sacrée qui était l'hébreu, mais avaient aussi ce qu'on appelle les judéo-langues, c'est-à-dire le besoin de créer une langue dans laquelle ils vivaient l'époque contemporaine, la leur, dans une langue qui leur était propre. Donc, cette langue a été créée, mais ce qui est absolument à la fois paradoxal et extrêmement intéressant et spécifique à cette langue, c'est qu'elle a fait une alchimie propre, à la fois en fusionnant, on appelle ça une langue de fusion, en fusionnant tous ces éléments, à la fois les éléments spécifiques de l'hébreu araméen, les éléments germanique et les éléments latin, roumain, toutes les langues qu'ils ont rencontrées en chemin. Et ensuite, quand ils se sont déplacés vers l'Europe de l'Est, c'est-à-dire à partir du XIIIe siècle, ils ont bien entendu inclus toute une quantité de vocabulaire et d'expressions et de mots de des langues slaves. Donc, c'est véritablement une langue de fusion.
Donc, d'où l'aspect universel de cette
d'où
langue.
D'où l'aspect universel, pour commencer, de la langue. Mais ce n'est pas seulement la langue. C'est-à-dire que une fois qu'ils sont dans cette langue que j'appelle une langue monde, en quelque sorte, eh bien, ils participent aussi, ils sont toujours trilingues, bilingues ou quadrilingues. Ils sont bien obligés puisqu'ils vivent parmi d'autres peuples. Eh bien, ils absorbent en même temps les cultures qui les environnent. Si bien, outre les traductions qu'ils ont faites des œuvres sacrées de l'hébreu araméen, comme la Bible, qu'ils ont traduites en yiddish, ils ont aussi traduit des œuvres des pays, des cultures environnantes, mitoyennes. Et à partir de la traduction, eh bien, ils ont commencé à créer leurs propres œuvres. Si bien qu'on peut parler non seulement d'une langue monde, mais on peut aussi parler d'une littérature et d'une culture monde, puisque quelle que soit la période, à commencer par le XIe siècle et jusqu'à l'extermination, eh bien, cette culture a puisé aux sources du monde entier et malheureusement, elle a été exterminée et je voudrais à ce propos de l'extermination citer une phrase de Cynthia Ozick qui est absolument magnifique et qui est une sorte de réponse à au discours sur la langue yiddish de Kafka, ce magnifique discours qu'il fait en accueillant le théâtre yiddish à Prague et elle retourne ce discours en disant « Et la langue était perdue, assassinée, la langue un musée. » De quelle autre langue pouvait-on dire qu'elle était morte, de mort soudaine et incontestable, au cours d'une décennie donnée, sur un bout de terre donné ? Mesdames, messieurs, ils ont excisé mes cordes vocales, la seule langue dans laquelle je puisse vous parler librement et couramment, mon mameloshen chéri. Eh bien, à partir de là, je crois, et c'est là qu'il y a quelque chose qui brusquement tourne, c'est-à-dire qu'on commence, maintenant que la langue elle-même est morte, eh bien on commence à s'intéresser au trésor que recélait cette langue, et en quelque sorte elle restitue tout ce qu'elle a absorbé, mais elle le restitue à sa manière, d'où la nécessité absolue de la traduire dans toutes les langues, mais puisque nous sommes en France, de la traduire en français.
Grâce à vous donc, Rachel Hertel, effectivement, on peut maintenant retrouver cette parole des écrivains de langue yiddish. On va dire un mot maintenant du livre, plus précisément. Il y en aura aussi un second, on en dira un mot tout à l'heure. Alors, quels sont les auteurs, quelles sont les langues, quelles sont les œuvres de ces auteurs que vous avez choisis dans l'ensemble de cette littérature très abondante, on l'a dit, écrite en yiddish au total. Six auteurs, bon, parmi les plus connus, mais dites-nous un petit peu qu'est-ce qu'on y trouve et pourquoi aussi les choix que vous avez opérés.
Voilà, donc il faut dire que c'est arrivé à une période vers la fin du XIXe siècle, quand le Yiddishland, à la suite de la Haskalah qui est tardive en Europe de l'Est, a commencé à être complètement imprégné des idéologies et il y a eu une sorte d'irruption des idéologies contemporaines. Et les Juifs, comme les autres, les ont absorbé.
La langue yiddish continue d'absorber tout ce qui se passe dans le présent.
Exactement. Et donc, elle absorbe toutes les idéologies nationales et sociales de l'époque, c'est-à-dire que ce soit le sionisme, que ce soit le marxisme, que ce soit le bouddhisme, elle absorbe tout cela et elle devient critique de sa propre société. Mais dans ce cas-là se pose le problème du choix de la langue. Dans quelle langue est-ce qu'elle va dire cette critique, ce regard critique que toute littérature en quelque langue qu'elle soit écrite, que toute littérature porte sur sa société. C'est le rôle même de l'intellectuel et de l'écrivain de porter un regard critique sur la société. Eh bien, l'hébreu, ça réduisait le nombre de lecteurs à très peu de gens. La langue du pays d'insertion, cela donnait aux antisémites des verges pour battre le peuple qui était déjà victime de discrimination et de persécution. Et puis restait donc la langue des masses, c'est-à-dire le yiddish. Et c'est là que la littérature yiddish et la presse yiddish et le théâtre, etc., dont vous avez parlé, ont surgi. Et c'est à ce moment-là que s'est créée cette littérature dont le premier volume rend compte.
Parce que, juste un petit mot, avant, il n'y avait pas eu vraiment d'œuvres littéraires en yiddish, pas de la même nature.
Il y a eu des œuvres en littérature yiddish depuis le XIIe siècle. Il y a eu constamment des œuvres de littérature yiddish écrites en yiddish avec la même démarche, en quelque sorte fusionnelle, que le reste. Mais la littérature qu'on peut appeler la littérature moderne naît avec le XIXe siècle, avec la modernité.
Alors, on en vient à vos six auteurs.
En vient à mes six auteurs. Donc, je commence par Mendeley Moichas Forim. Je vais commencer par trois auteurs que je vais regrouper parce que on les appelle les auteurs classiques. En fait, ils ne sont pas que classiques au sens français du terme. Ce sont les trois piliers de la littérature yiddish. Ce sont eux véritablement qui ont créé la littérature yiddish moderne. Le premier est Mendeley Moichas Forim et nous donnons de lui un livre qui s'appelle Fishke le boiteux, qui est une sorte de vagabondage à travers l'espace juif. L'espace de résidence obligatoire des Juifs et qui montre les hommes, les mendiants, les pauvres, les miséreux et parmi les miséreux, il place les deux vendeurs de livres parce que Mendeley Moichas Forim évidemment est un pseudonyme qui veut dire Mendeley le vendeur de livres. Donc il est lui-même le personnage du vendeur de livres qui rencontre un autre vendeur de livres et ils vont avoir un certain nombre de péripéties. C'est une espèce de livre picaresque qui traverse avec le rire et les larmes et les péripéties les plus invraisemblables tout le Yiddishland de cette péripétie.
Alors, publié en quelle année, ce livre-là? C'est au tournant du siècle
C'est au tournant du siècle, c'est en 1909. Vient ensuite, donc ça c'est le premier livre, un livre picaresque avec énormément d'aventures, de la satire, du rire et également du mélodrame. Le deuxième classique de la littérature yiddish est Yitzhok Leibush Peretz, né en 1852, mort en 1915, que nous présentons avec un recueil de nouvelles qui s'appelle Métamorphose d'une mélodie et dont le titre est véritablement emblématique de l'ensemble de l'ouvrage. C'est-à-dire que nous avons des contes de toutes sortes, des contes populaire, c'est-à-dire qui montre la misère et la grandeur du petit peuple juif dans sa vie quotidienne, et montre également la grandeur de la spiritualité juive, tout cela tantôt dans un registre réaliste, tantôt dans un registre fantastique, mais exaltant les deux, c'est-à-dire le petit peuple et ses guides spirituels et sa pensée spirituelle, et même et la spiritualité, y compris dans le petit peuple.
Troisième auteur, donc.
Le troisième auteur, c'est Sholem Aleichem, qui est aussi un pseudonyme, puisque Sholem Aleichem veut dire la paix soit avec vous. C'est une salutation, et donc d'avoir choisi ce pseudonyme est en lui-même une signification, puisque d'emblée la persona de l'auteur, qui est aussi un personnage de ses livres, s'appelle Sholem de Mannheim, c'est-à-dire qu'il veut apporter la paix dans un monde qui est en pleine persécution, en pleine paupérisation, en plein pogrom. Eh bien, il veut apporter la paix. Il l'apporte comment ? Il l'apporte par l'humour, en décrivant ce qui, à son sens, est le royaume juif, c'est-à-dire le petit shtetl qui s'appelle Kasri Lefke, puisque c'est Jean de Kasri Lefke. Et c'est Kasri Lefke est un jeu de mots qui joue sur Kasri, qui veut dire le pauvre, et Kesser, qui veut dire la couronne, qui couronne la Torah. Et donc, Kasri Lefke, c'est à la fois le royaume du pauvre et le royaume spirituel également. Et dans ce Kasri Lefke, c'est par l'humour que Sholem Aleichem essaye d'apporter la paix et la joie éventuellement, et aussi la tristesse parce qu'on y danse dans des cimetières.
On parle des trois autres auteurs, peu rapidement si c'est possible.
Les trois auteurs, eh bien, il y a Dernister qui est un écrivain symboliste de 1884-1950. Dernister a écrit un certain nombre d'œuvres symbolistes, notamment des contes, qui utilisent à la fois les midrashim juifs et les contes folkloriques du monde slave, et c'est chez lui qu'on voit des errants, des chercheurs d'absolu, d'un absolu qu'ils ne peuvent pas désigner eux-mêmes, mais qui est absolument une quête continuelle. Et lui a été arrêté parce que, en même temps que David Bergelson, il a été arrêté parce que lors de la campagne contre les Juifs en Russie, Dernister est mort au goulag, parce que symboliste ne décrivant pas le héros positif, et David Bergelson, qui est un autre auteur d'Union soviétique, dont nous le présentons autour de la gare, est également mort en 1952. Il a été assassiné en même temps que la plupart des écrivains et des intellectuels de langue yiddish par Staline en 1952. Donc, Autour de la gare est une longue nouvelle qui montre alors le délitement du shtetl au XIXe siècle et cette mort lente qui est en train de l'ensevelir et de l'engloutir.
David Bergelson, donc, et il nous reste à dire un mot peut-être de Sholem Asch pour finir.
Et bien sûr de Sholem Asch que j'oubliais. Alors Sholem Asch, c'est un auteur absolument colossal à la fois par le volume de ses œuvres et par la diversité de ses œuvres. Il a forgé le mythe du shtetl idyllique, ce que le shtetl n'a jamais été, parce que c'était un lieu de pauvreté et de misère. Il a forgé donc le shtetl aussi comme un mythe d'enracinement qui est resté dans l'imaginaire juif très vivant. On se réfère au shtetl comme à un paradis perdu, ce qu'il n'était pas. Et il a écrit en même temps d'autres livres qui portaient sur la révolution, sur la vie urbaine, etc. Dans la sanctification du nom, qui a été écrit en 1919 au moment des pogroms ukrainiens contre les juifs, il fait revivre l'histoire de ce qu'on a appelé dans la historiographie juive le déluge, c'est-à-dire les massacres des populations juives par les Cosaques, et il montre comment les Juifs solidairement, au lieu d'essayer de sauver leur vie, préfèrent mourir ensemble pour sanctifier le nom.
Rachel Hartel, vous donnez vraiment envie d'aller regarder, évidemment, de lire toutes ces histoires. Un mot des problèmes de traduction donc du yiddish en français. Est-ce qu'il y en a des spécifiques intéressants peut-être à signaler pour les auditeurs?
Oui, il y a des choses spécifiques, bien sûr, comme dans toute culture. Il y a des choses spécifiques qui relèvent plus du domaine littéraire, et du domaine, littéraire bien sûr, mais aussi du domaine spirituel et du domaine religieux, puisque nous sommes en monde juif et non pas en monde chrétien, donc il s'agit de transposer un certain nombre de choses. Mais il y a surtout maintenant, après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, quand cette langue a été exterminée, il y a une volonté de le faire traduire. Donc, il s'agit pour ceux qui veulent traduire de réapprendre cette langue, de se la réapproprier. Mais l'apprendre, ça veut dire aussi apprendre quelque chose qui vous appartient, que vous ne connaissez pas, mais qui vous appartient en même temps. Donc, il y a une très grande ambivalence. Donc, traduire du yiddish est un geste très particulier. C'est un geste à la fois de faire le deuil de la langue assassinée et en même temps de témoigner pour le monde assassiné.
Ça passe l'esprit yiddish dans le français, ça fonctionne bien?
Ça passe tout à fait parce que, comme je l'ai dit depuis le début et que je le répète, je tiens à le répéter pour terminer, ce n'est pas une littérature de ghetto, c'est une littérature universelle qui porte des valeurs universelles, des images, des métaphores, des symboles universels qui passent d'une langue à l'autre suivant le talent. Et nous avons choisi, bien entendu, les auteurs les plus talentueux et les plus importants.
Alors aujourd'hui, on constate, on le dit souvent, un regain d'intérêt pour la langue yiddish. Les petits-enfants ou arrière-petits-enfants reviennent souvent vers cette langue, prennent des cours qui se sont multipliés, dit-on, notamment à Paris. Comment vous appréciez ce phénomène? Est-ce qu'il n'y a pas, là, malgré tout, une petite renaissance de la langue, en tout
oui,
cas?
Oui, je dirais qu'il y a une renaissance de cette langue. C'est une renaissance qui est mémorielle, essentiellement. C'est-à-dire que, précisément, autour, et c'est véritablement, c'est quelque chose d'assez tragique, puisque c'est la Shoah, finalement, qui pousse à rechercher ces racines qui ont été exterminées, mais néanmoins, il y a cette renaissance mémorielle, il y a même des groupes qui s'organisent à Paris pour ne parler que le yiddish entre eux et ne se distraire qu'en yiddish entre eux. Il y a aussi les ultra-orthodoxes.
Ce que je veux dire, là, c'est le yiddish conservé de façon vivante dans les grandes yeshivas américaines,
absolument,
notamment.
Dans les grandes yeshivas américaines, dans certaines yeshivas
en Israël.
Eh bien, là, effectivement, c'est la langue qui est conservée naturellement pour commenter les textes sacrés, puisque c'est une langue qui est profane et donc elle est consacrée à commenter les textes sacrés, mais elle n'est évidemment aucunement intéressée par la littérature yiddish que nous présentons, puisque la littérature yiddish, en quelque sorte, s'est instaurée contre le sacré. Elle s'est instaurée en faisant un geste de division entre précisément le monde sacré et le monde profane, en introduisant le monde juif, le monde yiddish, dans le monde moderne, en brisant en quelque sorte, en faisant un geste de révolte contre la mainmise de la religion sur le monde juif.
Et pourtant, c'est aussi grâce à la langue yiddish qu'on retrouve quelque chose de peut-être du chassidisme ou de la haskala,
Bien sûr, on retrouve le chassidisme qui n'avait pas le chassidisme qui n'avait pas de doctrine très fixe, comme le dit Gershom Shalom, prêchait et enseignait par allégorie et conte, et enseignait en yiddish, puisque c'était au plus simple qu'elle enseignait. Donc c'est la grande source du fantastique dans la littérature yiddish. Par contre, la Haskala a introduit toute la modernité en yiddish, et l'a tellement bien introduite qu'elle l'a différenciée de la Haskala occidentale, puisqu'elle a pris un caractère de peuple et non pas de confession. La Haskala en Europe de l'Est n'est pas comme en France, on est juif ou israélite de confession et français de citoyenneté. Pour la Haskala d'Europe de l'Est, eh bien, ça a été véritablement la création d'un peuple. Je ne dis pas d'une nation, je distingue bien, c'était un peuple qui était créé grâce à la Haskala. Elle a introduit le rationalisme et les nouvelles idées, les nouvelles techniques et toute la modernité de la littérature yiddish, au même titre que l'expressionnisme, le futurisme, le symbolisme et les autres modernités des diverses cultures au milieu desquelles elle se trouvait.
Merci beaucoup. Merci Rachel Hertel. Donc, c'est le premier tome de Royaume juif, trésor de la littérature yiddish, édition établie et présentée par vous-même. Il y en aura donc un second dans 2 ans ou dans l'année prochaine.
Dans un an. L'année prochaine.
Voilà, on peut le trouver au Salon du Livre. Je vous, évidemment, le recommande. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine aussi pour un autre numéro de Mémoire Vive. Bon dimanche à tous.